C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouboudadi, avec Morgane Cadignan, avec Fanny Ruel.
Mais bonjour.
Avec Daniel Morin. Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure aussi. Et notre invité est Christophe Michalak.
Quel homme.
Quel bel homme.
Quel super homme.
Super bel homme.
Il est super beau.
20 ans de pâtisserie. 20 ans de pâtisserie, t'imagines?
Il ne les fait pas. Hein.
Trois époques, trois volumes, le condensé de gourmandise avec lui. On va en parler dans quelques instants. Alors, êtes-vous gourmande des unes, des autres, Fanny? Est-ce que tu es une mangeuse de dessert ou alors t'es pas du tout branchée sucre?
Oh ben, je suis branchée tout ce qui se mange. Hein.
Non, je parlais de nourriture.
Quand c'est bon.
Ouais, c'est ça.
Ah, pardon, oui, nourriture aussi. Hein.
Et quels sont tes rapports, Morgane, à la nourriture?
Oh ben, tu m'as vu de dos, Nagui. Je pense que c'est plutôt clair.
J'adore.
Même Nagui t'a dit, non mais ça c'est le frigidaire. Oui, Morgane.
Jamais.
J'aime bien manger, ouais. Je me contrôle un peu.
T'es plutôt sucré, salé ou les deux?
Eh ben, je vais en parler.
D'accord, ok. D'accord.
Moi, je suis purement sucre. J'ai grandi dans le miel.
C'est vrai.
Ah bah ouais. Qu'est-ce que je dis?
J'ai grandi dans le miel.
C'est pas rancé de la noyer.
Exactement.
Ça colle.
Puisque c'était le poitrine.
J'essaie.
Et toi, Daniel?
Non, moi, salé. Mais sauf quand on a affaire à des produits comme ceux de Michalak, forcément.
Tu fais une exception.
Ouais, tu as la dent sucrée. Tu as la dent sucrée.
Ouais,
forcément.
C'est
tellement bon.
On va en parler avec lui d'abord de savoir si lui-même fait attention d'ailleurs à la dose de sucre ou pas dans la pâtisserie. Puis comment faire la pâtisserie sans sucre? Ça me paraît un peu difficile. On en parlera.
Mais il est bizarre comme mec, hein, Michalak.
Il est tellement bizarre.
Très, très bizarre.
C'est pour ça qu'on l'invite. Levez la main.
Ah, on est
Daniel.
Okay. Ouais, Daniel.
Ah, il y a de la feinte, là.
Il y a plus
c'est
de préliminaires.
C'est Cake.
Il y a de la feinte.
Ouais, Cake. C'est le groupe.
Exactement, c'est Cake.
Wow. Ah, Wilson, on arrive.
Ah, bah, exactement. Okay.
Ouais. Ah, oui.
Ah, ouais, d'accord.
Ah, bah, je m'amuse.
Ah, ouais.
Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de politesse.
Préliminaire.
On y va. Ok, c'est la guerre. Allez. C'est la guerre.
Alors.
Non, on a un groupe qui joue de la guimbarde, totalement. Non, j'oublie rien.
Donc, puisque Christophe Michalak est notre invité, vous l'avez compris, le thème est autour des desserts, cake, en l'occurrence pour.
Donc, ça ne sera pas salé. Dans le chanson.
Écoute,
cake à la tomate,
non, précision. Non, on est très sucré. Oui,
il y a un groupe saucisson aussi qui peut débarquer à tout moment.
Allez, un cadeau, là, tu as, c'est bien, t'as compris. Alors attends, parce qu'il y a un léger décalage.
J'ai cru que c'était le départ des Spice Girls.
Moi, je vais rigoler à vos vannes.
T'es obligé de nous dire quelle vanne t'a fait rire. C'est celle
d'hier. Moi, c'était le saucisson. C'est toujours le saucisson.
Ah ouais, il y a un vrai décalage.
Un très grand décalage.
Reconnaissez, donnez-moi votre prénom avant de me dire la réponse. Qui chante ça?
Leïla.
Ouais.
Michel Legrand.
Ah bah toi t'es obligé.
Je peux pas avoir fait une série sur lui. Et c'est la recette, le cake d'amour.
Ouais.
Parfait, un point pour Leïla, un point pour Daniel et ça.
Yeah. Morgane,
oui.
L'artiste à chocolat.
Yeah.
Quoi? Et sur un tube de l'été.
Ah bah grave.
Vous savez, moi je suis une vieille dame là.
Ah ouais. T'as jamais entendu ça?
Non. Là, on est largué avec Catwoman. Hein.
J'ai pas dit que c'était de la grande qualité, mais regarde, on est tous en train de danser.
Ouais, mais attends, bah, si tu bouges
ce
pas là-dessus,
gars
c'est que t'as un problème d'oreille et de voix, en l'occurrence.
ou de chocolat.
Tu n'es pas seule.
De solitude.
Attention,
bon, allez.
Un point pour tout le monde, sauf pour Fanny, pour être précis. Qui chante pas?
Leïla.
Oui.
Daniel.
Joe Dassin.
Oui.
Tous les matins, il va jeter son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe.
C'est vrai que le vieil est là.
Ce qui est très drôle, c'est que si je chante, vous aurez mon aïe, aïe, aïe après tout le monde.
Aux enfants, à 13h.
Qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle.
Qu'est-ce que c'est bien, Joe Dassin? Donnez-moi votre prénom et surtout le titre ou l'interprète.
Leïla.
Fanny.
Leïla.
Daniel.
C'est moi d'abord.
On peut le donner à Fanny.
Ouais, avec le décalage, c'était clairement moi.
Ouais, c'est Fanny, c'est Fanny.
Alors mais c'est Banana Split, c'est Lio, c'est la famille.
Famille.
Banana Split. Boom.
Bon, là, je crains le pire, j'avoue, pour le suivant. Pour l'instant, tout le monde... Non, pardon, Leïla est au point.
Pourquoi
et Daniel, Morgane, Fanny, un point. Je crains le pire parce que je... Là, il va y avoir un vrai problème générationnel.
C'est ça que
On a summer evening. C'est le tube de cette année, de cet été.
Alors ça va être qui
Comme tous les tubes, c'est Jason Derulo. Et non. Ça s'appelle sûrement
Summer. Daniel.
Pute. Oui.
Bartman.
Non.
C'est un petit là.
Ah bah ouais. Mais,
Shawn Mendes.
Ah.
C'est un succès. Non, c'est pas Mendes.
Un des One Direction.
Succès, ouais.
Charlie Puth.
Ah, ils ont tous des noms chelous. Zayn.
Non.
Malik. Ah,
l'autre.
Malik Styles.
Oui, Harry Styles. Bien joué.
Pas du tout entendu parler de cette personne.
Ah, mais j'ai dit Malik, mais je crois que Zayn et Malik, c'est la même personne.
Mais Malik, il n'y a pas de Malik.
C'est Zayn Malik, je crois.
On m'a congelé les 20 dernières années là.
C'est celui qu'on appelle Johnny Fox aussi.
C'est Harry Styles. On est d'accord, vous parlez directement, Fanny, Morgan.
Oui,
vous faites votre émission
comme dans une émission radio.
Très bien, très bien. On joue avec les desserts, avec le sucré Watermelon Sugar. C'était le titre d'Harry Styles que vous avez fini par découvrir. Attention. Pour l'instant, 2 points pour Morgan, 2 pour Leïla, 1 pour Daniel, 1 pour Fanny. Le super banco à 3 points.
Daniel.
Morgan. Ah,
Daniel.
Sugar and Ben.
Sugar. C'était le super banco, ça?
Ouais, super là, banco. Ouais. Rubbers
c'est to light. Il n'y a pas un petit Frankie Vincent avec tout ce qu'il a fait de sucré au cours de sa carrière, quoi.
Ça, c'est moi, j'ai régalé. C'était plutôt salé, tu vois.
Saucisson, l'a dit tout à l'heure. Excuse-moi.
Ah. Et c'est Daniel qui remporte. Et aussi. Profitons-en pour applaudir Christophe Michalak, qui est notre ami
consentant. La bande originale, avec Nagui.
Et avec Christophe Michalak, bienvenue Christophe.
Bonjour tout le monde.
Soyez le bienvenu.
La beauté de l'invité.
20 ans. Ouais, c'est le beau
bien masqué, donc ça ne fait pas grand chose.
Même masqué, oui. Alors il y en a qui sont plus beaux masqués que sans.
C'est vrai.
C'est ça.
C'est l'avantage du Covid.
Mais tu sais que la directrice de France Inter m'a dit qu'est-ce que t'es bien avec un masque. C'est qu'elle me l'a dit. C'est une honte.
Ça met en valeur tes yeux, Daniel. C'est ça le truc. Vous fêtez, aussi paradoxal que cela puisse paraître, avec votre jeune âge, déjà 20 ans de pâtisserie. Vous avez publié hier un pur objet, un pur cadeau, j'ai envie de dire, un coffret sérigraphié qui représente les 150 meilleures recettes. C'est publié aux éditions Hachette. On se posait la question...
Enfin, jeune âge, pardon, il n'a pas non plus 12 ans, quoi. Je veux dire,
Non, mais enfin, c'est pas un vieux.
J'essaie de rattraper un peu le truc, là. Ça fait vraiment... accueillir.
Bah, pour moi, c'est un gamin. Il sera toujours, de toute façon, par rapport à moi, il sera toujours un gamin. Morgane, tout à l'heure, comme Leïla, Daniel et Fanny et moi, on se posait la question de savoir, est-il possible de faire de la pâtisserie sans sucre?
Alors, on fait déjà depuis de nombreuses années une pâtisserie très très peu sucrée, bien évidemment. Après, sans sucre, non, parce que l'ADN de la pâtisserie française, c'est le sucre,
c'est
du beurre, du lait, de la crème. Alors maintenant, on arrive à faire des bons gâteaux, certains gâteaux vegan. Moi, je fais la plupart de mes gâteaux sans farine de blé.
Vegan, ça veut pas dire sans sucre.
Ouais, c'est ça.
Oui, absolument. Mais je veux en tout cas sans
lait ou sans matière animale.
Sans matière animale.
Il est beau, mais qu'on comprend pas ce que ça veut dire.
Ou alors des pâtisseries à index glycémique plus bas, parce que le sucre, c'est une chose,
alors,
mais
là, je vais te raconter une histoire qui est très vraie. Dans les années 2000, donc il y a plus de 20 ans, quand j'étais au Plaza Athénée, j'ai commencé à travailler sur un Paris-Brest désucré à mort pour qu'il soit vraiment super joli, super sexy, super bon. Eh bien, il était super, ce Paris-Brest, c'est très intéressant, mais ça ne valait pas du tout une seule bouchée d'un vrai Paris-Brest. Mmh. Donc je préconise de faire à un moment donné, de baisser le sucre, oui, mais à un moment donné, il vaut mieux pas manger une petite part de gâteau et avoir vraiment un orgasme culinaire, je me comprends, que de faire un grand gâteau qui n'a pas de goût en fait et qui n'est pas très intéressant.
Ouais, c'est un peu d'ailleurs ce que disent certains nutritionnistes à propos des boissons 0% ou sans sucre ou aspartame. Ils disent mais si vous avez besoin de sucre, prenez une gorgée d'un vrai coca, pour ne pas le citer, par exemple sucré avec 25 morceaux de sucre dans votre verre, plutôt que des canettes où il y a zéro, mais vous serez toujours en manque, donc vous allez en prendre, en reprendre, en reprendre, ainsi de suite. Et là, ça va aussi détruire votre flore intestinale avec l'aspartame.
Maintenant, on est habitué aussi à avoir des goûts qui sont moins sucrés. Et reprendre un coca classique, d'un seul coup, tu as l'impression d'avoir
une surdose. Ouais,
on est très habitué à prendre moins de sucre. Ouais.
On est ravis de vous accueillir, Christophe Michalak, et on va parler de ce très bel ouvrage, idée de cadeau, puisqu'on arrive dans les fêtes. Et 20 ans de pâtisserie signé Christophe Michalak avec ses périodes Plaza Athénée, Masterclass ou Michalak Paris. On va en parler dans quelques instants. Le condensé de pure gourmandise. Mais alors, le problème, Christophe.
Oh là là, énorme problème.
C'est qu'il y a Morgane Cadignan. Et Morgane Cadignan, Christophe Michalak ne vous aime pas.
Non, 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 mais vraiment, en plus. Non, là, je suis énervée.
Vous êtes juste à côté de moi. Non, quoi.
C'est vrai, Christophe Michalak, je vous aime pas parce que, honnêtement, ça va bien de nous faire avoir des gros culs en faisant passer ça pour de l'artisanat. Stop. Non, mais.
Ça va passer tout seul.
En plus, là, on est reconfinés, donc ça va repartir en vrille. Pour le dessert, j'ai préparé un truc, c'est du chocolat sur une couche de caramel, le tout lié pour du beurre, et dessus, c'est de la crème de marron. Attends, Michel, c'est pas un peu gras ton truc? Ah non, mais c'est un Saint-Honoré selon Michalak. Ah, pardon. Je précise que vous êtes pâtissier parce que j'ai une amie, quand je lui ai dit qu'on vous recevait, elle m'a dit ah, il est trop beau, en plus j'adore ses pièces. Alors raté. Moi aussi je me suis fait avoir, ça c'est Michalik, pas celui du théâtre. Nous c'est celui du flan. Voilà. Et franchement c'est mieux parce que Michalik il est mignon. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé de bouffer un Molière, bah c'est dégueulasse. Voilà. Pour en revenir à l'apport calorique dans nos vies, l'autre fois je suis passée devant une de vos boutiques, il y avait une tarte, c'était écrit Tegros en chantilly dessus. Arrêtez-vous quoi, s'il vous plaît. Non mais si vous vous aimez en maillot de bain, tant mieux pour vous, mais pensez aux autres. Pensez à ceux qui ont un tout petit problème pour s'arrêter une fois qu'ils sont partis. Moi ça m'énerve, Nagui m'a demandé quand on me demande dans les soirées « T'es plus bec salé ou bec sucré ?» Mais ta mère, moi je suis plus bec tout court, donc ramène des blinis, sinon je tartine du tarama sur ton gosse et je le bouffe. Oh, moi je fais partie des gens... Non mais je fais partie des gens qui comprennent pas qu'à la question « Est-ce que tu veux du gâteau ?» la réponse puisse être non merci. Ouais, oui. Je trouve ça lunaire.
C'est clair.
Mais j'ai quand même étudié l'origine du problème. Dès 95, vous bossez chez Fauchon avec Pierre Hermé, puis vous devenez chef pâtissier au Plaza, vous ouvrez 4 boutiques et là vous écrivez un bouquin. Vous êtes l'exemple parfait du CAP qui part en couille. Moi, j'avais des potes en CAP pâtisserie, bah va savoir, ça n'a pas fini pareil. À l'heure où je vous parle, ils sont en crocs au fond d'une boulangerie pâtisserie avec un jeu de mots dans le titre. Ils se roulent dans la farine en chialant parce qu'ils comprennent pas que personne ne veuille entrer dans un endroit qui s'appelle pain à la ligne. Vous publiez cet été les recettes d'un pâtissier confiné dont tous les bénéfices iront aux soignants touchés par la crise du Covid. Non mais voilà, vous êtes chiant franchement. Comment vous voulez que je vous tombe dessus après ça? Vous jouez pas le jeu, c'est nul. Un peu de polémique, sinon on s'ennuie. En parlant de jeu, vous avez remporté la Coupe du Monde de pâtisserie et j'aurais adoré y être. Je me demande si ça se passe un peu comme la Coupe du Monde de football. Personnellement, en ces temps d'obscurantisme...
Sauf que tu la manges à la fin.
Exactement. Mais c'est encore meilleur. En ces temps d'obscurantisme, il y a quelque chose qui me fait du bien dans l'idée d'écouter Bichente et Lizarazu en train de commenter la préparation d'une ganache.
Ouais.
Est-ce que à la Coupe du Monde de pâtisserie, il y a des pâtissiers un peu comme des footballeurs chiants, genre Neymar qui rate un glaciage et qui chiale sa maman en disant qu'il a cassé sa cuillère. Non mais je me dis que ça doit être génial, il va y avoir des chansons.
Et qui se roulent
en pleurant dans la farine. Titre. Je me dis qu'il y a aussi des chansons de supporters comme dans toutes les Coupes du Monde, genre « Mais ils sont où ? Mais ils sont où ? Mais ils sont où les ventiers ?» Ou... Et enfin le célèbre titre de VG Dream, « Ramener le cake à la maison ».
Voilà.
Très bien.
Bravo.
Merci mon gars. Et je tiens à préciser l'élégance de Christophe Michalak, oui, qui est venu avec, j'ai envie de dire, des gâteaux et des cadeaux Covid.
Puisque, des crunchies.
Mais oui, c'est ça, des crunchies où on n'a pas à partager, tous à tripoter et tout ça en part individuelle. Fanny, c'est là où le problème du confinement est fond avec toi et la distanciation. Malheureusement, tu ne pourras pas goûter. On t'en met de côté, c'est promis.
Non, moi, mon dessert, c'est toujours Morgane.
Oh. Allez.
Non, moi, c'est les crunchies.
Fais gaffe, ouais. Là, t'as vraiment la bouche pleine, hein, fais gaffe. Christophe, donc, l'idée était d'être finalement dans un ordre chronologique entre Athénée, Masterclass, Michalak Paris. C'est qu'on est... Alors, même si dans chaque volume, la chronologie n'est pas forcément respectée, mais ce sont vraiment les trois périodes fortes de
ma carrière, de votre absolument. Vie, ouais. En fait, tu sais, tout le monde a tendance, surtout la nouvelle génération, via les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde a l'impression que la pâtisserie est née il y a 2-3 ans. Alors que j'aime bien citer mes pères, ceux qui ont fait grandir la pâtisserie. Je parle souvent de Michel Garrard, Gaston Lenôtre ou Pierre Hermé. Et moi, depuis les années 2000, en fait, j'ai eu vraiment trois périodes très fortes. La partie Place d'Athénée, qui représentait un peu la pâtisserie haute couture, qui m'a fait connaître. La partie, lorsque je suis devenu entrepreneur, qui s'appelle donc la partie masterclass, où j'ai ouvert une école et j'ai fait des gâteaux totalement rock'n'roll, totalement innovants, en tout cas pour l'époque. Et la période de maintenant, un peu plus posée, qu'on appelle Michalak Paris, avec vraiment les gâteaux qui me ressemblent vraiment.
Ouais, posé, mais qui n'en est pas moins délire, construite autour des super-héros, avec des formats dingues, avec des noms.
Ouais. Là, maintenant, un peu plus... ça, c'était plus il y a 5 ans. Maintenant, je suis un peu plus...
Oui, mais fait partie de cette période.
Voilà, tu sais que l'homme, c'est à partir de 40 ans qu'on commence à avoir un cerveau solide. Hein.
Ben, je vais attendre encore un tout petit peu alors.
Nagui, t'as loupé une étape ou quoi
La preuve. Il y a un gâteau, je trouve ça très émouvant, qui s'appelle la tarte Delphine.
Ah bah oui.
Delphine étant...
la photographe.
Et l'épouse.
Mon épouse est seule associée chez nous. Et oui, alors tu sais, souvent quand tu fais une connerie, une mauvaise remarque dans un couple, tu sais pas trop comment rattraper le truc. Bah moi, c'est très simple. Je fais des gâteaux au nom de mon épouse, où je fais des petits cœurs.
Alors ça va, il y en a qu'un seul.
Voilà, ouais. Avec des flocons d'avoine le matin avant de partir. Alors et ça passe tout seul.
Tu précises, il y en a qu'un seul. Le problème, c'est qu'il commence à expliquer la recette en disant cette recette a beaucoup évolué depuis sa création.
est-ce qu'il y a un message ?
Non, mais encore une fois, je l'ai désucré. Voilà, il faut savoir vivre avec son époque. Mais
il y a aussi une tarte vie Victor que.
Et oui, que j'ai fait récemment d'ailleurs. Il adore la pomme et la banane.
Donc sur Instagram.
Exactement, j'ai fait la petite tarte Victor. J'ai mon beau-fils qui me gratte en me disant eh oh, quand est-ce que moi j'ai mon truc à moi ? Donc je vais y plancher.
Non, mais c'est chic de se dire mon prénom est un dessert entre les mains.
Ça n'est pas un dessert de qui ?
C'est un message.
De Christophe Michalak. Alors j'allais dire, oui, Leïla dit c'est un message. C'est un message d'amour. Ça veut donc dire que le dessert est directement parce que sucré, parce que doux, parce que dans le, il y a un truc affectif. On a un rapport psychologiquement affectif avec les desserts.
Je pense sincèrement déjà quand j'étais môme, je faisais des gâteaux à un parce que j'étais très gourmand, mais j'adorais faire des jolis gâteaux et les offrir à ma maman. Voilà, ça a commencé comme ça et puis petit à petit, je pense que j'ai fait ce métier vraiment par empathie, par amour des autres, quoi, en fait. Hein.
Et quand vous dites « joli », là, on arrive aussi à une part importante. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est du 50-50 ou si par moment, l'esthétisme l'emporte plus que les ingrédients. Mais c'est vrai que ce sont des sculptures, pratiquement tout le temps.
Je pense que Instagram sur la pâtisserie cartonne et marche très fort parce que c'est joli par rapport à un plat de cuisine qui peut être... ultra émouvant et ultra goûteux, ultra bien assaisonné, automatiquement, notre regard, il va être favorisé par une jolie religieuse ou un joli gâteau. C'est plus sexy à l'œil. Ça n'empêche pas que c'est pas forcément.
Oui, mais enfin, d'aller jusqu'à des formes de voitures, jusqu'à des fusées.
Moi,
c'est ce qui est assez génial dans ce métier.
Moi, je veux vos moules là pour faire des prises électriques en chocolat. Je sais. Ou alors, faut faire un livre, si je vous en supplie, Christophe, avec des photos moches, quoi. Parce que moi, quand je vois les photos qui sont hyper belles, je regarde la recette, je me dis, ok, j'y arriverai donc.
Non, attention, ce livre n'a vraiment pas été fait. C'est vraiment 20 ans de carrière, 153 collector. L'idée, c'était pas vraiment de faire des choses très simples comme à la maison, comme le bouquin que j'ai pu faire lorsque j'étais confiné ou plein d'autres livres.
Donc ça veut dire qu'on ne peut pas les faire ou on les fera, mais ça ressemblera pas.
Alors c'est délicat. Si on veut rebondir sur ce qu'on montrait Leïla tout à l'heure, le millefeuille vanille caramel de 2006. Si on n'a pas la poudre à cocaïne, la balance à cocaïne de Nagui, comment tu fais pour peser 0,1 gramme ?
Mais ça, avec une balance alimentaire.
Une balance,
mais non, 0,1.
Bah avec une balance.
Je crois que les balances alimentaires, Morgane a raison.
Elles sont de plus en plus précises.
C'est juste celle de cocaïne qui arrive à ce grammage là.
Ok.
Non mais au-delà de ça, Christophe, l'idée de faire cette anthologie de vos recettes, on a l'impression aussi que c'est une manière d'écrire ses mémoires ou de faire ses adieux. C'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas, mais tu as raison sur quelque chose, c'est que je voulais ancrer et acter certaines choses, certaines techniques que j'avais mis au point, certains gâteaux. Par exemple, là, Daniel regarde le millefeuille qui est coupé sur la tranche. Ça, je l'ai sorti en 2005 ou 2006. C'est vraiment le millefeuille réalisé, posé sur la tranche pour pouvoir le couper plus facilement. Et j'adore les grands gâteaux.
C'est vrai que les millefeuilles, t'as raison, les millefeuilles, c'est toujours une galère. On se dit, mais comment je vais le couper, il va s'exploser en 1000 morceaux. Ça, c'est de millefeuilles, il va passer à 1000 morceaux et il va plus ressembler à rien.
Exactement. Donc, tout ce genre de choses que j'ai fait, en fait, tout le monde l'a un peu oublié. Et c'était un peu une piqûre de rappel en disant, je l'ai fait, c'est acté, c'est écrit, c'est dit, c'est bon.
Et vous ne cachez pas vos inspirations, je pense à la pavlova framboise, litchi et citron vert.
Ouais.
Vous racontez même dans quelles conditions
c'est. Il y a toujours une histoire, Leïla, toujours.
Alors c'est quoi l'histoire de ce dessert
C'est drôle ce que tu dis, parce que hier soir je regardais encore, pour moi, le mec qui a fait les plus belles émissions télé culinaires, il y en a deux pour moi, c'est Julien Drieux avec Fourchette et Sac à dos, et le deuxième c'est Fred Cheneau dans le Globe Cooker. Et je regardais une émission de lui en Belgique, putain le mec, il a une empathie, en plus je l'ai rencontré, je le trouve extraordinaire, et c'est lui qui m'a donné envie. Et en fait je fais beaucoup d'insomnie, un jour je regardais la télé, je crois qu'on est en 2004-2005, et je le vois en Nouvelle-Zélande, en train de découvrir une pavlova, et donc cette meringue soufflée. Qui est née en Australie. Meringue soufflée, crème chantilly et des fruits frais. Oh, la pavlova n'existait pas du tout, personne n'en faisait en France en 2004-2005. Et j'ai vraiment été le premier à la remettre un peu au goût du jour.
Merci.
Alors, et ça a été maintenant, tout le monde l'a refait.
Ça va mieux les insomnies là
ou... Ouais, non,
c'est réglé, là.
Non, chef d'entreprise, c'est de pire en pire.
Manque
mais bon,
de
je avec.
Manque de sucre peut-être.
Non,
mais
surtout
vous,
pas.
Mais pardon, justement, en tant que chef d'entreprise, vous êtes ouvert, on peut faire le click and collect, j'imagine, on peut commander, passer, prendre sa commande.
On peut faire ça. J'ai ouvert mes 3 boutiques. Non, voilà, la vie doit continuer.
La vente à emporter se poursuit.
Absolument.
Même si on a appris aujourd'hui qu'à Paris, au-delà de 22h, elle serait interdite, décision de notre maire fraîchement élu. Pour en revenir à cette anthologie, vous avez dit tout à l'heure, j'ai voulu écrire, marquer, poser ça en disant voilà, j'ai inventé, j'ai créé ça. De l'autre côté, on évoque la naissance de la pavlova en Nouvelle-Zélande. Ce qui me frappe, et on parle d'un livre aujourd'hui, ce qui me frappe, ce sont les droits d'auteur. J'en ai souvent parlé parce que c'est quand même quelque chose que je trouve incroyable dans tous les domaines, les domaines, jusqu'à là. Le choix d'une couleur pour une teinture de couleur sur un mur, les choses se déposent. Pas dans la cuisine. Vous ne pouvez pas créer, inventer quelque chose et en être le père, entre guillemets. Je ne parle pas que de l'intérêt financier, sans faire de mauvais jeu de mots sur les desserts, je parle de l'intérêt de la reconnaissance sur la création.
Alors, tu peux, par exemple, Dominique Ancel à New York a déposé le Cronut, hein, qui est une sorte de pâte feuilletée entre un donut et un croissant.
D'accord.
Très très rapidement,
Il a inventé une marque.
Ouais. Dès le lendemain, tout le monde a refait des Cronuts parce que c'est assez simple quand t'es professionnel, c'est assez simple à reproduire.
En ayant le droit.
En changeant un petit peu. Alors, c'est pas le Cronut, c'est le Dronut ou c'est le. Et bon, voilà, je trouve que c'est pas classe. Mais c'est vrai que dans ce métier, tu changes un gramme de sel ou de sucre, tu t'appropries la recette. Alors moi, je le dis, et c'est ouvertement écrit dans tous mes livres, souvent il y a une recette issue, récupérée chez un de mes amis.
Oui.
Ça, c'est primordial pour moi.
C'est même rajouté à ma façon, parce que c'est aussi la manière de déformer quelque chose, ou de transformer, ou de upgrader.
Absolument.
Mais est-ce que ça pique, Christophe, quand on invente, quand on crée quelque chose, et quand on a mis son intelligence, son art et son savoir-faire au service en l'occurrence là d'un dessert, est-ce que ça pique un peu quand on voit que quelqu'un d'autre le refait et juste pour dire ah bah c'est pas la même chose, il a changé quelque chose qui vient dénaturer l'idée initiale?
Alors je trouve que la race des grands, c'est tu peux reproduire mais toujours en faisant un clin d'œil en disant ça selon une recette originale d'un tel. Ça, je trouve que c'est la classe.
Donc ça pique.
Et si moi ça me pique pas du tout là-dessus.
Non, mais si quelqu'un ne reconnaît pas que ça vient de toi, par contre ça t'énerve un peu.
Bah bien sûr, je pense qu'on est tous pareils. Non,
mais ce gâteau que vous aviez inventé, qui était formidable, que vous aviez appelé taratata, ça vous gêne pas que
j'attendais la connerie, je l'attendais.
C'était tarte tatin. Chaque fois tu te trompes. Michalak, Paris, ce mot Paris a aussi une portée particulière dans votre histoire, dans votre vie.
Oui, parce que tu disais que la période Michalak Masterclass était vraiment issue de mon enfance, super-héros et compagnie. Et j'ai voulu, avec la période Michalak Paris, c'est-à-dire que j'ai changé tout mon packaging, j'ai changé ma typo, j'ai gardé quand même par contre mon logo, qui est un M un peu électrique. Et je voulais me diriger vers... Je voulais que ma marque devienne un jour une institution, entre guillemets, sans prétention. Je voulais que dans la tête des gens, on se dise « Ah, c'est pas mal, c'est rigolo les dessins de Michalak, c'est un peu rock'n'roll. » Non, je voulais vraiment que ça soit quelque chose d'ancré et qu'on garde ça en tête. Et c'est pour ça que ce coffret a pris beaucoup de temps. J'ai travaillé avec 3 photographes qui ont synthétisé, en tout cas, la partie Plaza avec Laurent Faux, la partie Michalak Masterclass avec... Patrick Rougereau et Delphine Michalak, mon épouse, sur la partie Michalak Paris. Et je trouve que voilà, c'est trois styles totalement différents, deux photos et deux produits.
Est-ce qu'il y a, parmi tout ce qui est possible sur la planète, un dessert sur lequel vous butez avec j'y arrive pas ou j'aime pas, tout simplement? C'est un moment où vous n'aimez pas tout ce qu'il y a dans la nature, donc j'imagine
qu'il y a
des goûts.
Moi, je suis un peu comme Morgane, j'aime tout, sans jeu de mots. Et par contre, j'avoue qu'il y a des spécialités fait ou je suis pas, toi, la forêt noire. Ouais. J'ai pas réussi, voilà, c'est sympa, c'est mais c'est pas mon gros kiff absolu.
Mais parce que c'est trop crémeux, parce que c'est trop...
Non, je pense que c'est une question de goût, voilà, tout simplement. Je peux en manger des très bonnes, mais c'est pas ce qui va me... Moi, j'adore le praliné, j'adore le marron. Là, voilà, l'association griotte, griotte chocolat kirsch, bon, ça peut être intéressant, mais c'est pas ma carte.
C'est limite. Morgane ?
Et est-ce qu'on peut être un excellent pâtissier professionnel et un cuisinier assez moyen sur
pas lui, en tout cas, je peux te dire pas lui.
Non, en général, ou est-ce que quand même il y a des techniques qui font qu'on est bon un peu
partout ? C'est le contraire qui est plus difficile.
Alors, je vais te raconter une histoire qui est différente, mais quand j'ai commencé mon métier, on m'a toujours, toujours dit qu'il y avait des cases. Il y avait les mecs qui faisaient de la cuisine, il y avait des mecs qui faisaient de la pâtisserie, il y avait des mecs qui faisaient du chocolat, il y avait des mecs qui faisaient de la glace. Donc, en fait, chacun faisait son petit truc. Ouais, voilà. Grâce à Nailly, on a eu la chance de travailler ensemble sur une super émission, où j'ai dû sortir un peu de ma pâtisserie et toucher un peu le salé. Et c'est vrai
que juste résumer, Morgane, l'idée de l'émission, c'était de se confronter avec un autre chef et qu'il y ait une espèce de compétition.
D'accord. Petite battle.
De petite battle, mais par candidat interposé qui, eux, étaient naïfs, entre guillemets, ou en tout
amateur,
merci. Et chacun conseillait l'autre. Ouais. C'était un match pour l'honneur et pour le principe. Mais ça poussait Christophe dans ses retranchements en disant, et il a bossé. J'ai jamais fait autant de salé et presque tu t'es pris au jeu.
Mais c'est ça qui est dingue, c'est que je me rappelle, on a déjeuné à la maison et Nagui me dit mais en fait pourquoi dans cette émission on aurait un chef salé alors que tu sais le faire. Et là je lui dis ok bon bah tentons le truc, comme je suis un peu perfectionniste
et que tu aimes les défis aussi.
Je suis un bon compétiteur, j'ai bossé comme un chien et je me suis aperçu incroyable mais vrai en fait je vais travailler côte à côte avec des super cuisiniers qui sont mes amis. Mais en fait, je me dis, c'est le même métier, en fait. On est là, ensemble, pour distribuer une émotion. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire des cases. À partir de ce moment, j'ai touché un peu, j'ai mis ma main dans la cuisine. Et en fait, j'ai adoré.
Daniel a raison, c'est l'inverse qui est plus...
Oui. Un excellent cuisinier ne saura pas forcément être
un bon pâtissier.
Un excellent pâtissier,
c'est
vraiment quelque chose de, c'est presque de la chimie.
Mais en fait, je trouve que ces deux métiers se complètent énormément parce que c'est vrai que pâtissier, ça peut être très chiant, c'est très carré, très organisé.
C'est très mathématique.
Très mathématique.
Quand il faut peser 0,1 gramme,
s'il te plaît.
Alors que dans la cuisine, on est plus dans la recherche de l'assaisonnement, de l'émotion, dans la rapidité. Un pâtissier, tu lui donnes 5 ingrédients, tu lui dis OK, Coco, t'as 30 minutes pour faire quelque chose. Il est incapable de faire un dessert, incapable. Un pâtissier lambda, formaté pâtissier. Alors qu'un cuisinier, au contraire, tu lui donnes 5 ingrédients, il a même 20 minutes, il va faire quelque chose.
Il a plus de place à l'improvisation.
Peut-être. Exactement. Voilà. Et je trouve que de compléter ces deux formations, c'est fabuleux.
La cuisine, la pâtisserie vue par Christophe Michalak, Plaza Athénée, Masterclass, Michalak Paris. C'est cette anthologie dont nous allons continuer de parler, publiée chez Hachette pour fêter les 20 ans de pâtisserie. Le coffret à peine une journée et elle a pas beaucoup plus d'ailleurs en termes d'âge. Voici Fanny Ruet.
Oui. Salut les vieux.
Salut Fanny.
Alors, je suis pas avec vous parce que je suis confinée à Bruxelles. Je compte rester dans mon appartement pendant les 2 prochains mois parce que j'ai beaucoup trop peur d'attraper le Covid et de devoir rester chez moi seule pendant 2 semaines. Oh fuck. Bref. Énormément de raisons pour lesquelles j'aime la Belgique. Déjà parce que vous n'y êtes pas. Je sais pas comment vous faites pour rester en France alors qu'à tout moment dans la rue, vous risquez de croiser un bus avec la tête de Nagui dessus. C'est horrible. Mais aussi, j'aime la Belgique parce qu'on est quand même vachement rigolo. La semaine dernière, il y a une infectiologue belge qui parlait des fêtes de fin d'année dans le contexte du Covid et qui a habilement suggéré qu'on les déplace, qu'on les reporte en été. Je cite, « Quand il fait beau, vous pourrez faire une grande fête dans votre jardin. » Alors, déjà, tu te calmes. En Belgique, il fait le même temps en décembre qu'en juillet. Pas très chaud et vraiment moche. C'est aussi ma bio Tinder. Et puis, clairement, le genre de grande fête que je fais habituellement dans un jardin, j'ai pas envie que ma famille assiste. C'est un peu le lien familial tacite, c'est que je ne vois pas mon grand-père en tongs et lui ne me voit pas rouler des pelles à des inconnus et vomir dans des buissons. C'est la famille. Donc, cette idée de mettre Noël en été, c'est pas ouf. Mais d'un côté, déplacer les fêtes, ça semble vachement nécessaire actuellement. Parce que si on fait des gros rassemblements en famille, le jeu du Secret Santa où on pêche quelqu'un et on lui offre un cadeau. Cette année, il y a une chance sur deux que le principe ce soit tu pêches tout le monde et le cadeau c'est la mort. Non. C'est plus un Secret Santa, c'est une roulette russe, et on appellerait ça le Secret Satan. Bref, il y aura des nouvelles box cadeaux aussi. Ouais. 2 semaines, tout frais payé aux soins intensifs. Est-ce que finalement la fièvre, c'est pas juste du soleil en take-away? Enfin bref. Et on s'offrirait aussi des bons de 135€ pour une amende. Comme ça, malgré le couvre-feu, on pourrait tous sortir en fourbe la nuit pour aller taguer des bus Nagui. Ce serait trop bien, à la table de Noël, on demanderait à être assis entre l'oncle raciste et la grand-mère riche, riche pour être sûr de tuer utile. Ça n'aurait aucun sens. Et le nouvel an non plus, ça n'aurait aucun sens, en fait, parce que vous imaginez la soirée du nouvel an? On serait la bonne année. Non. Tu mens. On peut pas se souhaiter une bonne année, parce que je veux pas vous spoiler. Je veux pas vous spoiler, mais 2021, elle arrive juste après 2020. Il peut pas y avoir de changement miraculeux. Quand on a vu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on s'est pas dit, alors celui-là était nul, mais attends de voir le 2. Voilà. Les personnages sont nuancés. À la fin, il y a un de ces pamphlets féministes. Non! Non! Une comédie française avec Christian Clavier, ça reste une comédie française avec Christian Clavier, même si tu changes un chiffre. Au mieux, s'il y a une amélioration, ça deviendra une comédie française avec Jérémy Crédville. Niveau contenu, ça reste affligeant, mais visuellement, il y a un mieux. Ben 2021, ce sera pareil. Donc bref, déplacer les fêtes de fin d'année, c'est très triste. Mais en vrai, je trouve que le confinement, en fait, ça ressemble très fort à une fête de Noël, mais tout seul. Parce qu'en vrai, ce qu'on aime le plus à Noël, c'est juste manger trop. Et ben là, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est trop mignon quand on dit « Ah, j'ai des boutons à cause du masque ». Non, c'est juste qu'on se nourrit comme des porcs. Parce que la bouffe, c'est tout ce qui nous reste. Hein. Moi, quand je me fais livrer à manger, maintenant, j'attends même plus d'être remontée jusqu'à mon étage pour ouvrir le plat. 80% de mon année 2020, je l'ai passé dans mes escaliers avec des falafels. Donc en fait, finalement, 2020, c'était une très bonne année. Donc je propose qu'on arrête de se plaindre. Allez, à la semaine prochaine.
Sur France Inter.
J'aime beaucoup ta bio Tinder aussi. Christophe Michalak, 20 ans de pâtisserie, avec, tiens, des couleurs. Faut juste m'expliquer pourquoi une période a plus telle couleur rouge, jaune ou
alors, le rouge est la couleur emblématique de l'hôtel Plaza Athénée, donc ça c'était logique.
Hein. D'accord.
Le jaune était le côté un peu couleur électrique de mon univers masterclass. Et alors, le vert est un peu loupé, mais c'est un vert amande.
Ah, moi, parce que moi j'ai vu un côté turquoise, d'accord.
Voilà,
c'est un vert amande.
Non, mais on n'a pas tout réussi. Mais voilà, le vert amande est plus doux et c'est la couleur de l'amande, c'est la couleur de mes nouveaux sacs, voilà, et j'aime bien, c'est doux.
Et j'en reviens justement, oui, à la couleur, au visuel, c'est quel pourcentage, proportion d'importance vous donnez entre le goût et le visuel?
Oh là là.
Ah oui, parce que les sens sont mis à contribution quand on
mange avec les yeux déjà.
Tu sais, bien évidemment. C'est une très bonne question. Je pourrais pas y répondre parce que ce qui est nécessaire pour moi, c'est de faire un putain de bon gâteau, quoi. tu vois, le reste. Alors bien évidemment, après, moi j'aime quand c'est propre, quand c'est carré, quand c'est nickel. Il faut que ça soit joli.
Oui. Il faut avoir envie de le manger.
Bien évidemment.
Il faut que
si ça ressemble à une bouse, c'est sûr qu'on va pas l'acheter.
Ok.
Donc tout est relatif, mais la priorité. La vraie priorité, c'est qu'on se dise, tu vois, aujourd'hui j'ai sorti un Mont Blanc. Moi, j'adore l'association marron et coco. Hein. J'ai fait un Mont Blanc avec une meringue, une chantilly, un coulant, etc. Et quand tu le manges, tu dis, ah putain, c'est bon, c'est un bon Mont Blanc. Voilà.
Il se passe quoi dans les 10-20 secondes avant de partir sur une piste? C'est de quoi j'ai envie aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai pas fait depuis longtemps.
Et je reviendrai, il y a que des bonnes questions ici. C'est très long et c'est très large. On est en pleine saison du marron. Ouais. Je veux travailler le marron. Est-ce que je veux travailler le marron 100%? Non, je veux l'associer à quelque chose. Avec quoi s'associe le marron dans tout ce que j'ai pu goûter dans ma vie? Bah, je sais que le marron fraise, ça ne marche pas pour moi, donc je ne le fais pas et c'est pas de saison. Et j'aime bien cumuler les saisons complémentaires.
D'accord.
Le marron la coco, oui, le marron la poire, oui, le marron cassis. Oui, tu vois. Et après...
Mais pardon, marron...
fraise ou marron cassis.
Orange ou mandarine, ça marche aussi avec les agrumes.
Très bon accord. Surtout avec, pas l'orange, mais surtout avec la mandarine ou la clémentine. Très très bon. Et souvent, tu te rends compte que par saison, eh bien, les fruits se marient à la fraise rhubarbe.
Finalement,
c'est
la nature qui a raison.
Totalement. Donc il y a ça, et puis après, il y a tout un travail sur le produit.
Et de création. On va en parler tout à l'heure aussi, encore avec Patrick Avran, qui est psychanalyste et écrivain, auteur de nombreux livres sur la gourmandise. Mais la musique est importante dans la vie de Christophe Michalak. Par exemple, dans les années 95, tu écoutais... Can't touch this.
Oh. Ah, c'est bon ça.
Can't touch this. MC Hammer, You Can't Touch This. La musique, est, on peut l'écouter en travaillant
Oui, je m'étais toujours promis, sortie d'un palace, lorsque je serai vraiment chez moi, de travailler à la lumière du jour, parce qu'on est toujours au sous-sol comme
c'est
des
vrai,
rats.
C'est ouais, vrai, ouais.
À la lumière du jour, première chose. Je voulais bosser en jean basket, deuxième chose. Et troisième chose, primordiale, je voulais travailler en musique. Donc j'ai créé une playlist sur Spotify, uniquement des titres, bah, des choses qui m'ont bercé mon enfant, donc des titres de, on va dire, grosso modo que la partie 70,
dont MC Solar aussi,
dont
MC Hammer, pardon,
MC Hammer entre ouais. autres. Et alors je crois j'ai répertorié 1200 titres hein, tout seul
et qui tournent dans les ateliers
et ça tourne dans les ateliers et dans mes boutiques. Voilà, c'est d'accord. vraiment la playlist que j'ai.
Et là faut penser à tous ceux qui travaillent avec vous qui se disent plus tard quand je serai chez moi il y aura zéro musique parce qu'on m'a obligé.
On travaillera
en culasse. La musique c'est une éducation moi je trouve que enfin dans les années 70 il s'est passé tellement de choses, 70 1080, ouais. Et il y a des titres, il y a des groupes, il y a, on parle de Queen, on parle de Springsteen, on parle de, il y a un milliard de personnes qui ont bousculé l'univers de la musique et c'est important.
Vous savez qu'il y a des groupes qui ont influencé certaines de vos créations?
Ah non, pas forcément.
Encore une bonne question.
Pas.
Au point de les baptiser.
Ouais. Et la réponse est non. Leïla, okay. Est-ce que c'est quoi dans cette période 95
et ben, pour Christophe Michalak? À cette époque-là, c'est la rencontre de Pierre Hermé. Est-ce que Pierre Hermé travaille en musique, lui?
Plutôt classique, hein.
Ouais, j'ai déjà vu danser Pierre. Il est pas très MC Hammer.
Vous finissez par être embauché chez Fauchon, où vous resterez pendant 2 ans. Dans les interviews, vous parlez d'une forme de ténacité.
J'écrirai un livre là-dessus.
Mais racontez un peu.
Non, mais j'étais enragé. Faut savoir que quand tu rentrais chez Fauchon, il fallait être ultra pistonné. Donc moi, j'ai demandé à faire un stage. À l'époque, on pouvait faire un stage dans une entreprise quand on voulait. Donc je suis resté un mois de stage. L'équipe du matin faisait 6h, 13h et l'équipe de l'après-midi faisait 13h, 20h. Ben, moi, j'arrivais à 6h le matin et je partais à 20h. Et à 20h, quand tout le monde partait, je faisais des petits trucs, des pièces en sucre, en chocolat.
Bon, pour ça s'appelle Fayot, ça.
Non, j'étais acharné. Parce que pour moi, Fauchon était la plaque tournante de la pâtisserie, notamment avec Pierre. Et je savais que si j'étais embauché là, bah paf, tout allait arriver. Et puis au bout d'un mois, Pierre est venu me voir en me disant bah, tiens, finalement, on a une place à vous proposer.
Bah,
et là,
quoi,
j'étais comme un fou. Quoi.
Ouais, le travail paye. Fin des années 90, Christophe Michalak, écoutez.
Ce clip dans le vaisseau spatial,
ah, c'est
ça, ouais. En noir et blanc.
Qu'est-ce qu'il était beau.
Elle aussi.
Michael Jackson, qui en plus a les mêmes initiales que vous, sauf une lettre. En 90, ce titre...
Sauf une lettre. C'est merveilleux.
Scream, qu'est-ce que ça évoque pour
incroyable.
Vous
incroyable.
Moi, ça me donnait une patate d'enfer. Déjà, le clip était incroyable à l'époque. Et puis, Michael Jackson, j'ai grandi avec ça. Donc, c'est ça. Bon, on se connaît un peu. Hein, moi, il ne faut pas grand-chose pour que je...
Avec Michael Jackson.
Le genre de musique, ouais, il faut que ça, ça suive aussi. Quoi.
Et dans ces fins des années 90, en 97 plus précisément, vous suivez votre ancien patron du Negresco, Grégory Collet.
Absolument.
Qui ouvre une pâtisserie, pas n'importe où, au Japon, à Kobe.
Ouais.
Qu'est-ce que...
Mais comment on suit une personne déjà en toute confiance comme ça?
Ah bah déjà, c'était mon chef, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses et c'était mon héros à l'époque. Il avait fait la finale du meilleur ouvrier de France. En plus, la pâtisserie, elle se passe vraiment à Paris et à Tokyo. En tout cas, en France et au Japon. Donc c'était un rêve pour moi d'arriver là-bas. C'était ma première place de chef. J'avais 25 ans à peine, 24 ans même. Et j'étais fou furieux. Sauf que, Kobe, c'est un peu le Clermont-Ferrand du Japon, quoi. Ouais, c'est paumé total. Et à 19h, il n'y avait plus rien. Et je voyais
on embrasse
aucun.
Tous ceux de Clermont-Ferrand qui nous écoutent.
Mais ceux de Kobe aussi. Hein.
Mais ceux qui nous écoutent. Moi, mais pardon, est-ce qu'il y a eu une peur au début de se dire j'y vais pas? Est-ce qu'il y a eu un moment de doute?
Oh non, jamais. Non, moi, je suis un warrior. J'aime la difficulté.
Est-ce qu'un palais japonais est le même qu'un palais français en termes de goût de sucre là aussi?
Alors, le palais est différent, la culture est différente, la façon de travailler est différente, tout est totalement différent. C'est vrai que nous, on vient toujours, nous Français, avec nos gros sabots, avec notre savoir-faire, on a l'impression qu'on va tout leur expliquer. Et en fait, voilà, c'est une culture totalement différente. D'ailleurs, 20 ans plus tard, lorsque j'ai ma propre boutique maintenant à Tokyo, en fait, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas évolué. Donc, c'est une culture totalement à part.
Non, mais que la culture française évolue, mais en restant la culture française. Donc, j'imagine que c'est pareil pour toutes les cultures du monde et la japonaise restera avec son ADN et son évolution. Est-ce que lorsqu'un chef comme Christophe Michalak arrive au Japon, c'est pour apporter la culture française française et le savoir-faire de Christophe Michalak ou apporter uniquement le savoir-faire et l'appliquer à la culture japonaise?
Alors c'est un peu des deux, mais à 80% c'est apporter ses produits français et sa marque. Et apporter 20% de produits japonais, notamment le yuzu, le thé matcha, le sésame, etc., à travers certaines créations.
Mais qu'on retrouve aussi en France, le yuzu.
Pas forcément. Je fais des produits qui sont un tout petit peu différents là-bas, qui
yuzu,
sont plus adaptés.
Bah, c'est pas...
Alors le yuzu, oui. Mais à travers le yuzu, j'ai développé d'autres créations spécifiques pour le Japon.
Et c'est qui les grands maîtres japonais de pâtisserie?
Alors, il faut savoir que les
Jackie Chan,
tous les
merci, alors
les
ça,
Chinois, hein,
mais
ils sont contents.
Ah ouais, ça. Alors voilà, ça c'est fait. Ok.
Tous les pâtissiers japonais sont venus.
Grossi, quand il battait les blancs en neige, je peux dire que ça.
Vous êtes pas les malins les autres.
Fanny, t'as bien fait de rester confinée. Je t'envie.
Très bonne vanne. En fait, beaucoup de pâtissiers japonais se sont formés en France dans les années 70 et sont repartis au Japon avec toute cette culture de la pâtisserie française. Et c'est vrai que lorsque vous visitez les pâtisseries japonaises, tout est nickel, tout est incroyable. Et en fait, le goût est sensiblement le même qu'à Paris. Eux aussi font très attention à ce qu'ils mettent à l'intérieur des gâteaux, font des gâteaux de moins en moins sucrés. Mais quand vous voyez une pâtisserie au Japon, c'est sensiblement les mêmes produits qu'on a à Paris ou en France.
Est-ce que l'envie est de se développer aussi dans des pays, alors puisque j'ai fait la boulette avec Bruce Lee Continent, avec la Chine, avec les États-Unis, maintenant que c'est pratiquement un pays libre à nouveau, est-ce que l'envie de dire je vais ou retourner en Nouvelle-Zélande ou en Australie aussi?
Encore une fois, une très bonne question. Oui, c'était mon point de vue il y a quelques années. Alors, avec tout ce qu'on a vécu, maintenant, en fait, j'ai une politique qui est différente. C'est small is beautiful. Maintenant, je suis très bien. J'ai 3 boutiques à Paris. J'ai un laboratoire en plein cœur de Paris. Je suis très heureux comme ça. J'ai des franchises. J'ai 6 boutiques maintenant au Japon. Je m'arrête là. J'ai pas envie. Alors, peut-être Dubaï, une ou deux par-ci par-là, mais j'ai pas envie d'aller sur le territoire américain. Déjà, c'est un autre business. C'est totalement différent chez nous. Je suis heureux comme ça et je veux créer un cocon avec mes employés, avec moi-même et être heureux de ce que je fais.
Justement, reparlons du monde en 2005.
Survivor.
Ouais, c'est le moment ou jamais. Ouais. Eye of the Tiger, Survivor 2005, champion du monde.
Champion du monde, c'est un marathon de 10 heures cette épreuve, où vous devez préparer une pièce en sucre, en glace et en chocolat.
Exactement, avec un gâteau chocolat, avec un entremets glacé, avec un dessert à l'assiette. Alors, ça me paraît désuet maintenant parce que c'était il y a quand même un petit bout de temps. Maintenant, je suis rentré dans l'équipe de la Coupe du Monde parce qu'on veut, avec Pierre Armé, justement, rebooster ce concours qui est assez fabuleux parce que, en fait, je me bats depuis quelques années là-dessus. Il y a quelques organisations maintenant qui élisent un meilleur pâtissier du monde chaque année.
D'accord.
Plusieurs organisations d'ailleurs élisent comme ça pour son travail, etc. Et bon, ça, c'est très bien, c'est parfait. Mmh. C'est un titre honorifique et je trouve ça super. Par contre, il y a une seule Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde qui se passe à Lyon, au CIRA, un grand salon, tous les deux ans, et en même temps, il y a aussi le Bocuse d'Or. C'est vraiment les deux compétitions, Coupe du Monde pâtisserie, Coupe du Monde cuisine. Et ça, c'est un vrai concours.
C'est l'intérêt du titre, cette compétition.
L'intérêt du titre, c'est un an de travail. Tu as 20 pays face à toi. Déjà, il faut finir premier dans ton pays. Donc, tu as des sélections, tu as des concours. Et quand tu gagnes parce que tu as bossé. Mais
oui, j'entends. C'est la compétition. Qu'est-ce que ça rapporte, entre guillemets, la notoriété, la renommée?
Une notoriété, certes, bien évidemment, une notoriété. Et puis surtout, ça, tu sais, c'est un combat contre toi-même. Toi, tu as grandi, tu as acquéri certaines choses. Tu es validé, entre guillemets, par la profession. Et puis ce titre va te permettre d'aller encore plus haut.
Puis de te faire connaître par tous les autres du métier si jamais tu n'étais pas.
En 2013, c'est la création des masterclass et. Daft Punk qui ont des gros problèmes pour manger les desserts avec le casque, mais sinon.
Ça, c'est pour ça.
Mais pas
je savais pas. 2013, donc c'est la création de la Michalak Masterclass. Quelle est l'idée de cette école?
L'idée, en fait, c'est de m'associer avec mon épouse, casser tous les codes de la pâtisserie luxe que j'avais créé au Plaza Athénée.
Pourquoi c'est si important, pardon, de vous associer avec votre épouse?
Alors, j'ai un petit caractère et je ne m'en voyais pas avoir des entrepreneurs, enfin des financiers qui me disent ce qu'il faut faire et être prisonnier. J'aime la liberté par-dessus tout. Donc, c'était primordial pour moi et c'était pas évident parce que, en fait, il faut savoir qu'ouvrir une pâtisserie entre le fonds de commerce, l'investissement total, honnêtement, à Paris, parce que tout le monde m'attendait, ouais, si t'as pas 1 million d'euros sous la main, tu fais rien, quoi. Mais tu ne fais rien.
D'accord.
Donc, j'ai créé un petit modèle, une petite école avec une toute petite pâtisserie. Avec 5-6 produits qui se battaient en duel et tout doucement eh bien, j'ai accumulé un peu d'argent, j'ai grandi petit à petit, j'ai réussi à développer un vrai laboratoire, puis ensuite j'ai ouvert 1, 2, 3 et 4 pâtisseries.
La transmission, c'est aussi important, c'est-à-dire avoir grandi en fréquentant de grands chefs et en écoutant leurs conseils et de dire, ça, c'est à moi maintenant de transmettre.
C'est encore plus valorisant de former des gens qui vont gagner des concours que de gagner soi-même un concours. Moi, j'adore. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a des. On a interviewé certaines personnes qui m'ont connu au Plaza, ouais, dans ces trois périodes. Et j'en avais presque les larmes aux yeux, tu sais, de lire, en fait, ce que j'avais pas. C'est quelqu'un, Leslie Gogoua, qui a écrit tous les textes, qui a interviewé, en fait, tous ces personnages, des référents de la profession. Et j'étais au bord des larmes, en fait. C'est super touchant de. D'entendre ce que les gens pensent de vous, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est important de savoir faire, c'est une chose, mais faire savoir, c'est encore mieux.
20 ans de pâtisserie, c'est le coffret sérigraphié qui recense 150 recettes, je ne sais même pas si je l'ai dit. 150 recettes, c'est publié aux éditions Hachette. Les rapports que nous avons à la nourriture et à la gourmandise, c'est ce dont nous allons parler avec Patrick Avran. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous allez bien? Tout va bien?
Je vais bien, j'attends mon dessert maintenant.
Ça arrive. Un titre.
Ça arrive. Vous êtes psychanalyste, écrivain, vous avez signé L'éloge de la gourmandise aux éditions de La Martinière, également La gourmandise Freud au fourneau. Donc on voit bien qu'il y a une grande part psychologique et émotionnelle, j'ai envie de dire, qui nous lie au dessert. Comment expliquer, en psychanalyste que vous êtes, le rapport que nous avons à la gourmandise et au dessert ?
Le rapport que l'on a à la gourmandise, il est multiple, parce que d'abord, ça fait partie de la première chose qu'un bébé découvre. Hein. Ce qu'il découvre d'abord, qui vient de l'extérieur, eh ben, c'est le lait.
Le lait maternel.
Sa mère, ça, c'est la base de la gourmandise.
Ouais.
Et le dessert est véritablement à chaque fois ce qui nous rappelle cela. Parce que dans un biberon, on n'ajoute pas du piment d'Espelette, hein. On ajoute éventuellement du sucre dans une bouillie, et il y a toujours cette dimension-là de. Alors les psychanalystes, ils emploient des termes en disant régressif. C'est pas régressif, c'est tout simplement qu'on a le souvenir des moments heureux de son enfance.
Oui, la fameuse madeleine qui d'ailleurs n'était pas une madeleine, mais un biscuit de mémoire.
C'était un bounty.
C'était beaucoup moins bon.
C'est ça.
Et c'est d'ailleurs pas par hasard qu'on se rappelle de la madeleine. Hein. Parce que la madeleine, c'est bon. Et le vrai souvenir de Proust qui l'a transformé, c'était pas bon.
Ouais, je comprends. Donc il a embelli l'histoire et son souvenir. Alors comme on est dans une période particulière de confinement et peut-être et même sûrement de restrictions d'ailleurs dans beaucoup de domaines ludiques ou des domaines de plaisir, est-ce qu'il y a un transfert donc de ce plaisir, de ces plaisirs auxquels on n'a plus droit vers la pâtisserie, parce qu'on a le sentiment maintenant que tout le monde fait son pain, que tout le monde fait sa cuisine, ou en tout cas peut-être moins dans ce deuxième confinement, mais plus dans le premier où tout le monde faisait la cuisine à la maison.
Tout le monde faisait la cuisine à la maison. Alors tout n'est pas psychologique, on est quand même bien obligé de déjeuner, beaucoup de personnes mangeaient à l'extérieur.
Non, mais ils sont mis à faire plus de desserts.
Ils
faisaient plus de desserts que d'habitude, plus de pâtisseries que d'habitude.
Oui,
est-ce que c'est rassurant, comme le lait maternel, finalement, de refaire de la pâtisserie?
Certainement, et surtout la pâtisserie, c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande. C'est d'abord du temps, la pâtisserie. C'est des ingrédients relativement faciles, hein, du sucre, du lait, etc. Évidemment, on peut faire des choses très compliquées comme les vrais pâtissiers, mais la pâtisserie qu'on fait chez soi, ça mobilise le temps, ça nous met dans un temps qui est autre, celui qui est le nôtre et celui qu'on a envie de partager avec les autres. Et puis la pâtisserie, c'est du temps pour le faire, et c'est aussi quelque chose qu'on peut manger en toute occasion. C'est pas uniquement en se mettant à table.
Ouais.
On peut en manger le matin, le midi, le soir. On peut faire le goûter, etc. Et il y a donc toujours cette dimension de partage qui est plus présente dans la pâtisserie, il me semble, que dans les repas qui sont pris à des heures théoriquement fixes.
On en revient, et pardon, moi, pour moi, la phrase que vous avez dite en ouverture est, touché, m'a ému cette image du lait maternel, ouais. Et de dire le premier rapport que nous avons au goût dans la vie, c'est le lait maternel, c'est ce premier dessert. Et là maintenant vous parlez de partage, on parlait tout à l'heure de transmission, tout ça c'est très, on est dans, encore une fois, dans toutes ces valeurs de famille, de maman, d'éducation. Et c'est vrai que même la pâtisserie, la cuisine, ça se fait aussi avec les enfants, ouais. On joue entre guillemets à faire des gâteaux avec les enfants, à leur apprendre.
On joue à faire des gâteaux avec les enfants en se rappelant des gâteaux qu'on a fait avec ses parents.
Oui, c'est la transmission.
Il y a effectivement une transmission dont vient de vous parler Michalak, mais aussi qu'on retrouve chez tous les cuisiniers. Ils vous racontent toujours des histoires de transmission. Et ils font pas uniquement la cuisine pour eux et pour les personnes avec qui ils vont offrir les repas, mais ils font aussi la cuisine pour pouvoir la transmettre à d'autres. Il y a cette dimension-là dans la cuisine, et peut-être encore plus particulièrement dans la pâtisserie, parce qu'il me semble que les évolutions sont plus lentes.
Justement, la pâtisserie, c'est la transmission. La pâtisserie, c'est le sucre aussi. Est-ce que ça veut dire que quand on a une problématique avec le sucre et la pâtisserie, ça questionne le rapport qu'on a avec sa mère?
Oh là.
Ah bah vous êtes si,
et que l'on a avec son père. On va pas résoudre son Oedipe en mangeant un gâteau.
Non, mais en revanche, si on en mange beaucoup, est-ce qu'on n'a pas un problème avec...
C'est un plaisir autorisé.
Alors, moi, je pense...
pâtisserie, c'est un plaisir autorisé, de la même façon boire le biberon, c'était une nécessité.
Oui, mais j'en reviens, c'est vrai que Leïla a raison, le rapport que l'on a à la nourriture a toujours, pardon, mais vous êtes psychanalyste, c'est pour ça qu'on ramène tout à la psychanalyse, mais le rapport que l'on a à la nourriture, soit c'est un rapport de compensation, enfin je vais pas tomber dans les clichés de...
La bouffe réconfort, ouais.
Voilà, c'est ça, je me rassure parce que j'ai des problèmes affectifs, donc je vais manger un peu plus de chocolat que d'habitude, des desserts et ainsi de suite. Et puis on peut même se poser la question inverse, est-on réellement heureux quand on se prive de dessert, quand on retient sa gourmandise pour rentrer dans ses pantalons en disant non, attention, je réponds pas au code de la société en ce moment, donc faut que je maigrisse.
Je suis dans un contrôle.
Et là, et là, je m'enlève des plaisirs, je m'enlève de la gourmandise, je m'enlève ce rapport à, alors peut-être pas, on va pas parler de complexe oedipien, mais enfin ce rapport affectif que j'avais avec la nourriture.
Oui, la gourmandise, c'est l'autorisation de se donner du plaisir, et un plaisir que l'on peut considérer comme étant bon pour soi.
Voilà.
Ça veut dire, c'est pas la boulimie, hein, c'est pas non plus ne pas manger parce que il faut être sous telle ou telle forme, enfin, c'est pouvoir se dire que à la fois on mange parce que c'est un plaisir, mais en même temps c'est un plaisir partagé, c'est un plaisir partagé avec d'autres. Il y a toujours un lien entre la gourmandise et l'amour. L'amour, c'est ce qu'on partage, mais c'est ce qu'on partage avec ceux qui nous entourent et qu'on partage d'abord avec soi-même.
Donc c'est comme tout, la gourmandise, ne pas se l'interdire, l'excès, oui.
L'excès, à partir du moment où c'est un excès, on peut se demander à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il y a de l'excès? Et alors à ce moment-là, on va chez son psychanalyste qui va lui expliquer. Voilà. Mais ça demande beaucoup de temps, ça.
Mais il faut avoir surtout les coordonnées de Patrick Avran. Psychanalyste et écrivain, je rappelle L'éloge de la gourmandise aux éditions de La Martinière et La gourmandise Freud au fourneau. C'est sorti en poche aux éditions Point. Merci Patrick Avran, portez-vous bien et bon dessert.
Merci.
Comment ça va, Tanguy Pasturo?
Très bien. Je salive. Alors aujourd'hui,
ça se voit pas, t'as le masque.
Non, j'en ai plein partout d'ailleurs dedans. C'est très problématique.
De quoi parles-tu?
Je veux parler de l'Islande. Et là, vous vous dites super, ça va être pénible comme une chanson lente de Björk sur des elfes qui pioncent. Eh bien, en fait, non. L'Islande, c'est super. Il y a notamment des arbres et on les enlace. Figurez-vous que ça procure un grand bien-être.
À tout à l'heure. La bande originale avec Leïla Kadour-Boudali, Fanny Ruet, Morgane Cadignan, Tanguy Pasturo et notre
bonjour
Daniel Morin,
okay.
Et notre invité Christophe Fidelac. Christophe Michalak avec cette anthologie 20 ans et donc 150 recettes depuis 2013 à aujourd'hui. Non, depuis non, 2000.
2000, pardon, 2000, 2000, 2000, 2000. 20 ans.
Donc il y a eu 2000, 2013, 2013, 2016 et 2016, 2020. C'est ça?
C'est ça.
J'ai bien résumé. Très bien. Il y a dans cette anthologie, on parlait tout à l'heure de transmission. Est-ce qu'il y a des recettes qui sont dans votre ADN, Christophe Michalak, qui viennent de votre maman, votre grand-mère, la première recette que vous avez jamais apprise, à part peut-être le pain perdu, qui est le premier truc qu'on essaye.
Non, non, c'est pas un scoop. Hein. Ma maman travaillait beaucoup à l'époque et elle faisait aucun gâteau à la maison et elle faisait aucune cuisine tout court. Donc non, c'est vraiment la passion de la pâtisserie qui m'est venue lorsque j'étais ado. Et puis voilà, j'ai persisté.
Mais qui vient comment justement? Quelle est la première recette? À quel moment
gâteau
on se dit
yaourt,
tiens, je vais essayer un truc?
Le must.
Ah, franchement, je crois que c'est gâteau yaourt classique. Hein.
Gâteau yaourt, c'est dimanche 17h quoi.
Ah. Moi, c'est, quand j'ai un petit souci, voilà, je suis pas bien, je fais un gâteau yaourt.
C'est fou ça.
C'est réconfortant. Ouais. Je suis assez d'accord.
Ouais. Quel est ton péché mignon, Morgane? Quel est mignon?
En dessert.
Nourriture, dessert, attention.
On part sur du Paris-Brest.
Ah oui, bravo, très bonne cliente.
Ouais. D'accord. Et toi, Leïla,
Pavlova pour forever.
Alors que c'est très difficile de réussir la meringue à l'italienne, c'est ça le nom de cette meringue?
Alors
de
non, pas forcément. Tout le monde après met son histoire dans la pavlova, non, mais la pavlova,
il y a deux genres. Il y a deux genres de meringue. Il y a celle qui est dure à l'extérieur et molle à l'intérieur, c'est ça?
Alors en fait, il y a trois sortes de meringue pour faire très rapide. Il y a la meringue française, c'est des blancs montés avec du sucre, d'accord. La meringue italienne, c'est un sucre cuit versé sur des blancs. Et la meringue suisse, c'est tout ensemble poché à 60 degrés et après foisonné et refroidi.
Non mais d'accord, mais alors dis-moi la différence qu'il y a, la texture et au
alors
goût,
la vraie pavlova, c'est une meringue française.
Non, entre ces trois meringues.
Qui est cuit, croustillante à l'extérieur et ultra moelleuse à l'intérieur.
C'est française.
C'est la meringue française. D'accord. C'est la force justement de la pavlova qui doit être un coussin d'air.
D'accord, ouais, c'est la d'accord. Daniel, ton péché mignon en dessert en...
Moi c'est très simple, le flan.
Non mais je suis pareil. J'adore.
Tanguy,
moi c'est l'île flottante parce que j'adore la crème anglaise. Donc je pourrais bouffer des litres de crème anglaise.
Là où moi je suis choqué. Fanny, quel est ton péché mignon toi en dessert?
Parce que tiramisu toujours.
Ah ouais. Tiramisu, c'est vrai. Bah oui, mais je suis choqué. Personne n'a parlé du caramel. C'est quand même le truc le plus dingue, le plus formidable.
Ah non, mais pour moi, c'est comme du chocolat, c'est pas un dessert, c'est encore autre chose.
C'est en plus un dessert.
Alors, mais moi, je pense à la tarte Delphine, c'est-à-dire chocolat caramel, c'est là, ça y est, quoi. Moi,
chocolat lait caramel, c'est encore plus puissant.
Pavlova, je pense que...
Jean Duja, qui est une espèce de praliné
noisette. Très fort en noisette. Mais tout est bon, hein.
Non, ce qui est assez intéressant, c'est que les Italiens prennent leur place aussi dans les desserts. Il faut pas les réduire aux simples pizzas, pâtes.
Surtout pas. Et autres. Toutes les pâtes levées comme les panettone et compagnie, c'est eux. La crème, à l'origine, les glaces viennent aussi d'eux. Regarde dans
gelati.
Tout. Je rebondis, mais on parlait du tiramisu. Peut-être le dessert sur toutes les cartes françaises dans tous les restaurants du monde, c'est le tiramisu.
Ouais, il est là.
Ouais. Il est toujours présent.
Avec des variantes, parfois.
Avec des variantes, oui. Pas toujours réussi.
Non, mais la présentation, c'est pas plus réussi dans le dessert.
C'est pas une
T'as l'impression que ça a déjà été mangé.
C'est pas une question de ouais, la présentation de tiramisu, elle est rarement esthétique.
Mais
tu peux pas le sculpter, c'est mou. Donc ça dépend de la forme de ton bocal ou de ton bol. Mais bocal est peut-être un peu gros pour un bocal, oui.
Un bocal maintenant.
Non, ce que je veux dire par là, Daniel Morin a raison, et Dieu sait, ça me fait mal de le dire, ça écorche. Le problème, c'est les noms que l'on donne à des desserts, et d'un coup, on le goûte, on dit, mais
il mérite pas, mieux.
Non, ça s'appelle pas un tiramisu, ça s'appelle pas une pavlova, ou ça s'appelle pas. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on dit, ou que des chefs disent, ou des cuisiniers, si c'est pas des chefs, disent, c'est un tiramisu ou c'est une pavlova? Est-ce que c'est le fait d'avoir deux, trois ingrédients et après on se permet de tout détourner? Qu'est-ce qui donne un nom finalement, une appellation à un dessert?
Si on parle du tiramisu, le tiramisu en fait c'est un biscuit parfumé au café avec une crème au mascarpone. Donc si on réunit tout ça... Et si ça ressemble un peu à quelque chose, c'est un tiramisu.
Donc ce sont les ingrédients qui définissent le nom du gâteau que l'on présente.
On parlait de la forêt noire. Forêt noire, toi, c'est du chocolat, du kirsch et de la griotte. Ouais. Donc toi, après, tout le monde va faire une forme différente. On va essayer de se l'approprier. On va essayer de faire notre style. Mais après, des gâteaux, il y en a tellement. Et puis on parlait du tiramisu, mais parlons aussi de la panna cotta, qui est aussi un des desserts
qu'on voit souvent
sur la carte de tous les desserts.
C'est vrai.
Tous les restaurants de France. Et du monde.
20 ans de pâtisserie, le coffret sérigraphié est publié chez Hachette, signé Christophe Michalak. Voici Monsieur Tanguy Pastureau.
Ah là là les amis, que c'est bon de vous revoir. Je vous aime, je vous fais des bisous partout.
C'est pas nous qui parlons.
Bon, y a pas un truc qui vous choque là ?
Si.
Bah oui, c'est ça, ça ne me ressemble pas du tout de dire ça. Ça n'est pas moi. Daniel Morin, un soir de remontée de Sèvres, pourrait prononcer ces phrases. Mais moi je n'aime pas les bisous.
Ça arrive plus
Je suis l'homme le moins tactile du monde. La seule fois où j'ai fait un massage, j'ai demandé à la dame de me jeter des trucs sur le dos en restant à 4 mètres. Elle m'a balancé son imprimante sur la nuque pendant 7 jours. Ensuite, je suis resté coincé de la tête vers le haut. J'avais jamais autant contemplé les nuages. Hein, je criais Evelyne Delia, je te prends quand tu veux. Sur les arrivées de systèmes dépressionnaires. C'est comme ça. Quand j'étais jeune, j'étais ouf. J'ai tout tenté niveau sexuel. Une fois, j'ai même fait un plan à deux. C'est comme un plan à trois, mais avec ta petite amie. Adam, oui, mais attendez, c'était une époque où je sortais de 10 ans de plan à 1. Donc, mais aujourd'hui, je suis blasé. 46 piges, j'ai passé l'âge des papouilles. Rangez vos doigts, les bolosses. Au bout d'un certain âge, même les sentiments sont moins intenses. Moi, j'ai plus de papillons dans le ventre, j'ai des cocons. Seulement, j'ai conscience que tout le monde n'est pas comme moi. Dommage d'ailleurs, parce que sur les fiches de paix, ça éviterait de changer les noms des gens à chaque fois. Imaginez en fin d'exercice l'encre économisée. Et la distance sociale qu'on doit maintenir face au Covid, certains la vivent mal. Des êtres sensibles qui ont besoin des autres pour s'épanouir, des lavettes, des mecs qui lisent Alfred de Musset en pensant purée si j'étais perdicant, je frotterais Camille comme si on était tous les deux sur la ligne 13 du métro. Donc à ces gens, je dis une chose, barrez-vous en Islande. Oui, en Islande, ce riant pays où l'hiver, quand le jour arrive, il fait nuit quand même. L'Islande, c'est le pays des geysers. Vous vous baladez, puis soudain, un jet d'eau très puissant se déclenche sous vous. Si à ce moment-là, vous ne portez pas de slip, ça vous colle les bourses au niveau du front. Ça évite à voir rajouter du maquillage. En Islande, on peut faire de la motoneige. C'est comme de la moto, mais avec des skis. Alors qu'à Paris, j'ai un ami qui a fait du vélibus. Il a fait du vélib, il s'est pris un bus. Mais surtout en Islande, on peut faire un câlin à un arbre. Oui, à un arbre. Ces choses longues avec au sommet un truc un peu fouillis. Vous voyez Mireille Dumas ? Bon bah un arbre, ça ressemble à ça. La différence c'est que si l'arbre a des champignons, il ne va pas à la pharmacie. C'est le service forestier islandais, le SFI, hein, rien qu'en disant son nom, tout le monde se transmet le Covid, qui propose aux gens d'enlacer des arbres. Parce que là-bas aussi, il y a les mesures de distance sociale. Or, l'isolement a des effets négatifs. Ça entraîne des dépressions et on est moins résistant aux maladies. Manuel Valls, qui est isolé politiquement depuis 4 ans, là, si un moustique le pique, il se barre avec sa jambe droite. Et faire des câlins aux arbres, d'après les Islandais, a des vertus thérapeutiques folles. On sent bien, parce que déjà, l'arbre ne proteste pas. Hein, jamais il ne dit « Mais enfin, Jean-Pierre, que t'arrive-t-il ? On a toujours eu des rapports de stricte amitié. » Ou alors, s'il le dit, c'est que vous n'auriez pas dû manger ce champignon bleu au pied de l'arbre. Mais au-delà de ça, au Japon, par exemple, on enlace les arbres depuis la nuit des temps, avant même la première télé d'Alain Duhamel. On appelle ça le Shirin-yoku, bain de forêt en français. Hein, juste se balader dans la nature, d'après les Japonais, fait du bien. Alors, en fait, ils ont fait une expérience. Ils ont envoyé 3 jours dans la nature des hommes d'affaires citadins. Quand ils sont revenus, ils avaient 40% de cellules tueuses en plus. Les cellules tueuses, ce sont celles qui se battent contre les maladies. Hein, dans Il était une fois la vie, elles sont représentées avec des pieds. Et elles disent, viens d'en voir, cette maladie, je vais t'éclater. Alors mieux, un mois après leur balade en forêt, les types avaient encore 15% de cellules tueuses en plus. C'est-à-dire que les équipes de tournage de L'Amour est dans le Pré, qui vivent dans la cambrousse, sont increvables. Ensuite, vous pouvez les lâcher à Alep sans gilet pare-balles. Karine Le Marchand, si elle lèche le masque chirurgical d'un malade du Covid, ses cellules tueuses glissent sur sa langue en sifflant, comme les nains dans Blanche-Neige, s'emparent du masque et vont le jeter dans la poubelle dédiée. Enlacer des arbres, ça booste les défenses immunitaires. Alors, le souci est que nous, dans le bureau de l'équipe, avons un ficus pour 15. Il va donc falloir le câliner à tour de rôle. Alors, je vous préviens, j'ai déjà établi une petite relation avec lui ce matin. Je l'appelle le ficus Nounet. Hein, voilà, il ne répond pas, il est peut-être dur de la feuille. Alors, je sais, vous êtes affligé, mais cette vanne va faire le tour des magasins Truffaut. 2700 employés. Hein, donc, ça va se ressentir sur les prochaines audiences. À un moment, il faut peut-être parler à d'autres gens qu'aux profs de lettres si on veut se développer. Alors, Porfinson, un garde forestier islandais, explique dans un article de West France, hein, le journal de ceux qui font des câlins aux hortensias, qu'il faut passer 5 bonnes minutes à enlacer l'arbre de son choix. Et ensuite, vous êtes zen, détendu. Ok, votre t-shirt est dégueu, vous avez des fourmis dessus, du caca d'oiseau, mais c'est la paix intérieure qui est recherchée ici. L'aspect extérieur n'est rien, comme vous le dites souvent Nagui le matin, juste après avoir choisi vos habits. Alors ce week-end, faites comme tout le monde, confinez-vous dehors, hein, parce que je pense qu'il y a qu'Olivier Véran qui respecte le confinement, et sa sœur, hein, parce qu'il l'a convaincu, et faites des câlins aux arbres. Ils sont plus beaux que vos potes, et ils ne s'imaginent pas, eux, que vous avez envie d'aller plus loin. Et monsieur Michalak, le jour où vous faites un millefeuille, câlinez-le aussi, je suis certain que ça marche.
Merci.
La bande originale.
Merci Tanguy Pastureau, Christophe Michalak, oui, est notre invité pour ses 20 ans de recettes, 150 recettes publiées chez Hachette. Il y a également des recettes dans une bande dessinée qui s'appelle Monster Delices. Dans cette bande dessinée publiée au Lombard, il y a 3 recettes que vous avez écrites. Et ces recettes d'ailleurs retrouvent, alors là c'est moi qui gagne, hein, je suis désolé, parce que oui, il y a une rose aux pommes. Mais ensuite, nous avons quand même droit à une mousse glacée caramel spéculoos orange, mais comment j'ai envie de la goûter celle-là. Et un peu plus loin, encore le caramel pour une boule de neige pomme caramel chaud froid.
Voilà. Bah c'est super. Tu sais, le gros kiff, c'était de me dire, tiens, et si je racontais une histoire à mon fils qui a 6 ans et qui découvrait, qui découvrait un peu mon univers avec mes recettes. Et c'est chose faite, quoi. C'est ça que c'est le but. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, ou en tout cas j'ai créé ces recettes. Et c'est quand même une histoire qui a commencé en 2013, hein, donc ça a pris beaucoup de temps.
Pour 3 recettes.
Ouais, absolument. Ça a pris énormément de temps
plutôt Rafael dos Santos. C'est Acme.
Ouais, et je trouve que le truc est bien ficelé. C'est une très jolie histoire à raconter à ses enfants. Et d'ailleurs, mon fils, à chaque fois qu'il prend ce bouquin, il fait « Ah, ça, c'est des gâteaux papa ». Voilà.
Très bien. La culture, oui. Que se passe-t-il en ce moment, Leïla, dans le monde de la culture?
Quelques questions. Quel biopic prévu au cinéma ne verra finalement pas le jour? Michael Jackson?
Non. Carlos Ghosn.
Il s'agit du... Le biopic sera consacré à une star française. De vrai.
Johnny.
Ouais, c'est Johnny. Et qui devait le réaliser?
Qui devait le réaliser?
Une grande gueule qu'on aime bien recevoir ici autour de ce micro.
Marshall.
Olivier Marshall. Ah. Absolument. Il devait réaliser ce biopic et finalement, il le connaissait bien, il l'aimait beaucoup. Il a été abordé pour faire ce biopic et puis finalement, des choses ont été un peu plus compliquées à mettre en place. J'imagine.
Mais quoi, encore un problème de.
Du côté familial, c'est raconter aussi une histoire qui n'est pas complètement soldée, donc c'est peut-être un peu délicat. Est-ce que vous avez un conseil d'un film?
Est-ce que vous avez des secrets familiaux?
Christophe, un film. Oui, t'as raison, ça partait comme ça. Alors, est-ce que vous avez un secret?
Un secret de quoi?
Non, je plaisante. Un film à nous recommander, par exemple.
Écoute, je vais rebondir sur Olivier Marshall. J'ai découvert Bronx il y a quelques jours. J'ai trouvé ça superbe.
Il paraît que c'est super.
Ouais, il est top.
C'est un film.
Ouais,
d'accord.
Franchement, Olivier Marshall, moi, je suis assez fan de tout ce qu'il fait. Et là, sur Netflix, il a réussi encore à rebondir et c'est encore top.
Ouais, est-ce que des films peuvent vous donner des idées pour créer des desserts? Est-ce que ça peut être parce que il y a eu un concept il n'y a pas très très longtemps de faire des projections de films et de servir un dîner qui correspond au film, que ce soit par le jeu de couleurs ou des clins d'œil, par des créations exceptionnelles.
Moi, perso, c'est pas ma cam. C'est une rencontre avec des gens, découvrir un produit. Une sensation, voilà, et puis l'idée grandit très vite dans ma tête, mais de là à voir un film, non, je regarde Rocky Balboa, quand je sors, le premier mec qui me cherche, il s'en prend une. Mais là, pour faire un gâteau derrière Rocky, non, je vois pas.
Et à l'inverse, est-ce que tout est possible? C'est-à-dire dans la création, on le voit sur des œuvres d'art, que ce soit de sculpture ou de tableau, chacun va dans son univers ou a des styles différents, mais est-ce qu'il y a des règles qui sont incontournables dans la pâtisserie, ou est-ce qu'on peut tout essayer? Avec le seul risque, évidemment, c'est que ce soit
tu
moins
parles
bon.
En termes de goût?
Oui, parce que l'esthétisme, après,
alors,
c'est la création.
Alors, tu
en
sais,
de
oui,
goût,
je me rappelle, il y a un truc en Belgique qui a été créé, où c'est des associations de saveurs particulières, et on s'est rendu compte que, toi, l'huître avec le kiwi, ça marchait. Alors que sur le papier, huître et kiwi, ça marche pas.
Famille, c'est la Belgique. Hein. Tu connais ça ou pas en Belgique?
Non, pas du tout, mais c'est fou qu'on arrive à créer des trucs pareils alors qu'on n'arrive pas à avoir de gouvernement, là. C'est...
Ça va, Fanny? Ça sent la déprime.
Elle est au bout du rôle.
J'aime la façon dont on met nos priorités, c'est trop bien.
Question suivante. Un objet culturel va devenir une série sur Netflix, justement, on en parlait. Savez-vous de quoi il s'agit? Un objet culturel. C'est pas une bande dessinée. C'est pas un livre qui va être adapté. Un objet culturel, c'est-à-dire un bien culturel. Si c'est pas une BD.
C'est pas le jeu vidéo?
Absolument. Bravo. C'est le jeu vidéo Assassin's Creed qui va être adapté sur Netflix parce que c'est quand même le jeu le plus vendu au monde de toute l'histoire.
Il y a eu déjà un film.
Et maintenant, ça sera une série. Ils vont le décliner. Le film, c'était avec Fassbinder et Cotillard, absolument. Est-ce que vous êtes branché jeux vidéo?
Pas du tout. Je suis très branché cinéma, ouais. Je suis très branché série, je suis très branché musique.
Et bande dessinée. Et
absolument,
et
ouais. Héros, ouais, c'est ça. Et food, à gogo, bien évidemment, et art. Mais alors, les jeux vidéo, mais pas du tout.
Vous êtes confronté avec vos enfants?
Je joue pas du tout à ce genre de choses.
Ouais. Est-ce qu'il y a des super-héros qui ont plus marqué que d'autres?
Bah, tous, tu sais, Spider-Man, Captain America. Moi, je lisais les magazines Strange. Ouais, Marvel, ouais. Ce qu'on appelait Strange dans les années quand j'étais môme. Et je collectionnais à l'époque, enfin, tous les mois, j'achetais 10 bouquins. Il y avait Strange, Spécial Strange, Spécial Origine Strange, Nova, Speedy, etc. Je les achetais tous et jusqu'à l'âge au moins de 18 ans. Et je n'ai rencontré personne à l'époque, quelqu'un qui faisait comme moi. Donc je pensais que j'étais le seul mec à lire ce genre de choses. Donc je me cachais un petit peu. Et alors voilà, maintenant ça me réconforte de les voir à l'écran, au cinéma, et voir que c'est un succès.
Vous avez des créations un peu, les fantastiques notamment, et qui ont des têtes de super-héros, ces gâteaux, quand masques, même.
Ouais. Pas forcément, mais les quatre fantastiques, oui. Ah ouais. Mais j'ai pas vraiment rebondi sur le dessin animé, les quatre fantastiques, sur les gâteaux.
Tu as fini là ou tu avais encore une info? Très bien. Est-ce qu'il y a des desserts qui ont été tentés qui sont, je sais pas, impossibles à réussir parce que ça tient pas, la texture ne va pas, le goût oui, mais
la tarte au gravier,
la glace au caillou.
Est-ce que même Christophe Michalak se confronte à des difficultés pâtissières?
Moi, je suis obsessionnel, donc si tu veux un gâteau, il doit être beau, il doit être bon, il doit être facile à couper, il doit être facile à voyager, il doit être facile à être digéré. Donc il y a un énorme travail sur tout
beaucoup
ça, mais beaucoup de contraintes. Donc tout dépend de ce qu'on veut faire. Après, il y a des associations qui, pour moi, ne marchent pas. Je parlais de la fraise et du chocolat. Ouais. Pour moi, ça ne marche pas. Le marron et la fraise, ça ne marche pas.
Mais est-ce que tu as dit tout à l'heure,
voilà. C'est quoi, mais encore une fois,
ce que j'ai aimé, c'est que c'est la nature qui, par ses saisons, en tout cas, envoie des signaux en disant ça va bien ensemble.
Mais oui, c'est tellement évident. Toi, par exemple, tu fais marron coin, c'est en pleine saison, ça marche. Marron frais, c'est pas de saison, ça marche pas. Alors après, on pourra me dire, oui, mais marron framboise, ça passe. La framboise, ouais. Ça peut passer toute l'année si tu bidouilles un petit peu, mais c'est pas vraiment ça.
Combien faut-il d'essais avant de réussir un dessert?
Alors tout dépend. Tu peux le réussir du premier ou du centième coup. C'est très aléatoire. Là, je te lis une info. Je suis en train de faire un gâteau de voyage très particulier pour une grande maison chocolatière parisienne. En fait, c'est un co-branding qu'on fait tous les deux.
D'accord.
Et j'essaie de recréer un peu le gâteau du sac à retort.
C'est laquelle la maison?
La maison du chocolat, Paris.
D'accord.
Voilà,
okay.
C'est un projet pour Pâques prochain, dans un temps. Et je voudrais reproduire un peu ce qu'avait fait l'hôtel Sacquer. L'hôtel Sacquer, ils ont fait un sac à retort. C'est un biscuit qui est coupé en trois tranches, tartiné avec une confiture d'abricot, reconstitué, et nappé avec un glaçage chocolat. Voilà. Ça a l'air sexy comme ça, mais c'est pas si bon que ça. Mais par contre, c'est joli parce que c'est. Okay. C'est envoyé partout dans le monde dans une jolie boîte en bois. Et le sac à retorte, voilà, c'est quelque chose d'emblématique. Et j'essaie de retravailler sur un univers comme ça.
Donc tu essaies de reproduire un dessert qui n'est pas bon?
Non, alors, je ne vais pas du tout faire la même chose. Mais je veux faire un gâteau de voyage qui soit consonant chocolat, mais qui ait des textures. Et je ne te mens pas, là, j'ai dû faire pas loin de 30 essais. Et je ne suis pas encore satisfait.
Livre-leur un pépito.
Est-ce qu'il y a des ingrédients que vous vous interdisez, au sens où s'ils sont des fruits qui viennent de trop loin, dont vous ne maîtrisez pas, ou vous n'avez pas la sensation de maîtriser non plus la culture, en vous disant c'est peut-être pas un bon signe pour la planète ce que je fais?
Ou traçabilité aussi.
Ouais, absolument. Bah, ça, c'est l'ordre du jour. On travaille que par saison et de plus en plus en circuit court. Ça, c'est la priorité.
Mais il y a quand même quelques ingrédients qui viennent d'ailleurs, j'imagine.
Oui, alors. Par exemple, toi, le yuzu, nous, on le récupère du Japon. Oui. Voilà, j'ai un gâteau collector et je ne peux plus le changer.
Problème de la vanille aussi.
C'est ça.
Alors la vanille est devenue beaucoup trop chère. Moi, je l'utilise vraiment que dans mon flan et basta. Et dans un cake. Mais sinon, avant, on mettait de la vanille. C'était un bouche-trou, on en mettait partout. Je ne suis pas fan de la cannelle aussi. Voilà, si je peux me permettre.
20 ans, l'anthologie donc de ces recettes. 150 recettes publiées chez Hachette, signé Christophe Michalak, qui donnait sa définition du dessert réussi. Beau, bon, facile à couper.
On dirait qu'on parle de moi.
Il n'est pas bon, mais il est tellement facile à couper. Voici Daniel Morin.
Alors hier, j'ai jeté un œil sur un programme dont la programmation m'avait jusque-là échappé. Mm-hmm. C'est sur TFX, et ça s'appelle 10 couples parfaits. Eh ben, waouh! Et pourtant, croyez-moi, des cons, j'en croise. Mais là, ça dépasse tout. Ah ben, ça fait une thérapie géniale pour tous ceux et toutes celles qui dépriment parce qu'ils se croient bêtes. Tu regardes ça, 20 minutes, t'es tellement rassuré quant à ton état, tu te dis que ton état, ton niveau de connerie, c'est pas si grave que ça, au final, qu'en tout cas, il y a bien bien pire. Alors,
t'es énervé.
Principe... Non, j'étais ravi. Le principe est simple. 10 femmes, 10 hommes, 20 cons. Voilà. La production assure que des tests scientifiques ont été pratiqués et que les 20 cons sont faits pour former 10 couples parfaits. Alors vous me direz, c'est bien parti, puisqu'ils ont tous un point commun majeur. Ils sont tous cons. Voilà. Alors, moi, perso, je trouve que peu importe qui avec qui, ils sont pour moi tous compatibles les uns avec les autres. Bref, vous l'aurez compris, ce programme n'a aucun intérêt, si ce n'est de savoir que, dehors, peut-être, à quelques maisons de chez vous, il y a des super cons qui font de vous des gens brillants en puissance. Mais moi, toute cette connerie, ça me dépasse. Là, pour me calmer, je vous le dis, il me faudrait au moins un grand brownie caramel banane de Maître Michalak. Bon, ça, c'était mon coup de cœur du jour, mon petit moment gloire aux cons. Petit coup de gueule maintenant contre ça. Non mais merde, à la fin, pauvre Aznavour. Laissez-lui son œuvre, laissez-le reposer en paix. Dany Briand qui reprend la bohème, mais au secours. Alors je sais que nombreux sont ceux qui militent pour le droit au blasphème, mais là ça va beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Et puis, arrête avec les percus et les cuivres, t'es pas Ricky Martin, Dany. T'es juste un mec chelou qui se coiffe avec du pento et qui porte des chaussures pour jouer à la pétanque. Bon, merde. Alors je vous invite à aller voir le clip. Ça se passe à Montmartre, bon jusque-là, normal. Mmh. Et là, on voit déambuler Daniel Gominet avec son sourire de vendeur de voitures volées. Non, il y a des gens qui dansent dans la rue comme des cons, mais arrêtons le massacre. En même temps, La Bohème, c'est une chanson aussi belle que maudite. Rappelez-vous du carnage.
La Bohème.
La Bohème. Là, je suis d'accord, désolé, je suis d'accord avec Eric Ciotti, il faut un Guantanamo français pour les gens qui, comme Kenji Girac, piétinent avec sa glotte infernale, une chanson mythique. Écoutez ça, écoutez, c'est horrible, quel enfer. Alors pour m'apaiser, l'idéal, je vous le cache pas, ce serait un fantastique chocolat au lait mandarine de Sa Majesté Michalak.
Ah bah voilà.
Non, la seule reprise réussie, c'était dans La Vérité si je mens.
Ma BM, ça voulait dire qu'on était riches.
Génial, génial cette scène. Alors je finirai sur un double hommage, hommage à Tanguy Pastureau et Guillermo Guise. Tout ça, ça me donne envie de câliner un sapin en Islande, de faire l'amour à un cactus mexicain et de crever dans un ficus à France Culture. Allez, je vais prendre 0,1 g de vanille un nouveau millefeuille de Sa Majesté Michalak. Ça va me détendre.
Merci. Merci Daniel, Morin, Christophe. Michalak, on parlait de évidemment des produits qui constituent l'essentiel, les ingrédients de la pâtisserie. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits? On a l'impression qu'il y a des modes comme ça. La mozzarella, moi quand j'étais petit, on n'est évidemment pas en pâtisserie, mais la mozza n'existait pas. Le yuzu, on en a vu beaucoup aussi, alors qu'on n'en avait jamais entendu parler avant.
Ça a mis du temps. Non, bien évidemment, dans chaque pays, il y a des produits collector qu'on découvre. Moi, depuis une dizaine d'années, j'adore les produits orientaux. J'ai développé une saveur dont j'en parle dans mon bouquin qui s'appelle la saveur orientale, où j'ai mélangé en fait du lait d'amande, de l'eau de rose et de la fleur d'oranger. Et ce concentré de trois saveurs à travers une crème, je trouve ça assez fabuleux. Toi, on parle de la crème Ashta, j'aime beaucoup les produits libanais.
Que du léger.
À ma façon, c'est léger, je te rassure.
D'accord.
Mais l'Ashta, on parle aussi du sésame, on parle du citron noir d'Iran. Il y a plein de produits dans le monde qui sont assez fabuleux. Il suffit curieux.
Le champ des possibles reste encore présent. Christophe Michalak était notre invité. Merci Christophe, porte-toi bien, bis à la famille. Demain, nous parlons du général de Gaulle. Constance Dolé et Patrice Duhamel seront nos invités. Tout de suite, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand.